bonjour à tous. Alors peut-être avant de tenter de répondre à ces questions, juste peut-être quelques mots quand même sur les deux films. Hein. On nous a demandé de regarder les films, donc voilà, autant en dire un petit mot. Moi, ce qui m'a frappé hein, à l'issue du double visionnage, c'est leur point commun, c'est-à-dire que dans les deux cas, en fait, il s'agit d'habiter le vide, d'habiter dans le vide, un désert, des décombres. Et dans les deux cas, il s'agit aussi de tenter de résister à une autre forme de néant, hein, quelque part, celui créé par les pouvoirs dominants et leur coalition d'acteurs. D'un côté, il s'agit de résister à la vacuité, à une absence hein, quasi totale des pouvoirs publics, sauf quand il s'agit de le contrôler militairement. Et puis de l'autre, il s'agit au contraire de résister à son omniprésence. En tout cas, c'est l'idée de résister au vide, à mon sens, produit par une violence d'État, hein, cette force extérieure dont parlent très bien hein, les derniers habitants des Wutong. Et même, à mon sens, une violence ultime quand on parvient à faire que ce soit le peuple exploité, celui des campagnes, qui déloge le peuple précarisé, celui des villes. La différence entre les deux films, de mon point de vue, réside au total dans l'issue, c'est-à-dire dans le produit final de cette rencontre entre habiter et résister, ce qui permet d'emblée de poser la question des limites et de la mesure des formes de résistance par l'habiter. À Villa del Salvador, les habitants ont fait leur ville, alors certes dans le sang, dans la sueur, mais aussi dans leur capacité d'organisation, d'autogestion, d'émancipation, et à la fin du film, vous l'avez bien vu, on danse et on chante. Hein, même si tout n'est pas rose, que la pauvreté reste importante hein, et que cette société autogérée a aussi ses contradictions. À Pékin, au contraire, on a un magnifique exemple de forme d'accumulation par dépossession. Hein. Les habitants sont bien conscients qu'ils vont se faire avoir. Quoi. Voilà, d'accumulation par dépossession et puis de destruction créatrice, hein, puisque sans qu'on la voit vraiment, on la voit poindre, cette nouvelle ville qui se fait en image de synthèse, en affiche. Et l'autre ville, elle est détruite un peu. Et puis d'ailleurs, la manière de filmer, à mon sens, n'est pas sans rappeler, alors peut-être avec la lenteur en plus, le chaos du Berlin de Rossellini. En tout cas, dans les décombres, à la fin du film, on pleure et les têtes sont baissées. Hein, le peuple est impuissant, il y a cette citation. Donc les résistances par l'habité et par les pratiques ordinaires des habitants, à mon sens, ne peuvent rien au bulldozer ou à l'armée, hein, face à l'armée. Au mieux, elles peuvent ralentir un processus qui reste somme toute extrêmement rapide. Et donc, même s'il est nécessaire de les observer, d'interroger leurs effets, éventuellement leur portée politique, leur pouvoir, bon, il ne faut pas non plus, dans tous les contextes, en toutes les circonstances, trop les idéaliser. Je dis cela parce que je suis géographe, hein, et il y a pas mal de travaux de géographes, notamment anglophones, qui, à mon sens, ont une fâcheuse tendance de voir de la résistance partout, jusqu'à en oublier l'intensité quasi structurelle des formes de domination et d'inégalité que doivent affronter ceux qui résistent. Donc ça implique du coup de tenter d'être clair sur la manière dont on construit la notion de résistance, qui est une notion extrêmement chargée. Alors effectivement, moi je l'ai manipulée cette notion, j'ai été amené à l'utiliser dans le cadre d'un travail sur la gentrification des anciens quartiers populaires et sur la manière dont les populations déjà là, issues de catégories populaires, quel rapport ils entretenaient avec ce processus et les formes prises par ce processus. Alors, juste un mot, mon observation de départ, cette idée que dans de nombreux anciens quartiers populaires, dont la gentrification, donc je rappelle très brièvement, hein, très rapidement, mais en gros l'arrivée de classes moyennes aisées dans des quartiers anciennement populaires et qui s'associe à une modification aussi du parc de logement, parfois il y a le sentiment que les choses ne changent pas tant que ça, hein, que l'esprit du lieu ne change pas tant que ça. Comme s'il y avait une sorte de continuité hein, au-delà des transformations générées par les acteurs institutionnels, économiques et par les nouveaux arrivants, les gentrifieurs. Et donc voilà, l'hypothèse que j'ai faite et que j'ai explorée, c'est qu'il existerait dans ces contextes urbains-là des mécanismes de reproduction par les habitants déjà là, de logiques de peuplement, de modes d'appropriation de l'espace, de formes de sociabilité. Des mécanismes qu'on peut appréhender soit à l'échelle individuelle, que j'ai interprété au départ moi en tant que résistance, soit à l'échelle du lieu, et c'est ce que j'ai interprété en termes de continuité populaire, donc ces continuités qui seraient l'expression, le produit de résistance individuelle ou collective au quotidien. Hein, des résistances qui peuvent affecter à la fois l'espace résidentiel, privé, mais aussi le marquage des espaces publics ou l'espace des représentations des quartiers étudiés, donc ce qui les rend plus ou moins visibles aussi. Alors, ces pratiques renvoient par exemple à la capacité d'habitants à faire circuler de l'information sur des logements vacants hein, au sein de leur réseau pour essayer de contrôler tout un pan du marché du logement qui est un peu parallèle au marché officiel. Ces pratiques renvoient aussi à celles d'habitants qui ont dû déménager de manière plus ou moins contrainte du quartier, mais qui reviennent au quotidien, tous les jours, dans le quartier pour fréquenter les commerces, voir des amis, voir la famille. Où il s'agit encore de la faculté d'occuper des espaces rénovés de manière spécifique ou pour développer aussi un certain nombre d'activités illicites, hein, détourner l'espace rénové. Donc toutes ces pratiques, à mon sens, ne peuvent se comprendre indépendamment du champ de contraintes extérieures dans lesquelles elles s'inscrivent, hein, économiques, sociales, morphologiques, des contraintes structurelles qui vont jouer de manière différenciée sur le déploiement, sur la nature même de ces pratiques. Et bien évidemment, toutes ces pratiques contribuent à façonner une représentation et donc une réputation du quartier en question qui va pouvoir jouer sur certains projets politiques, éventuellement certains projets commerciaux et sur certaines stratégies résidentielles. Donc pour répondre à une des premières questions posées, oui, de telles résistances peuvent être appréhendées entre guillemets comme heureuses, dans le sens où les continuités qu'elles produisent peuvent vraiment durer dans le temps. En revanche, elles impliquent bien souvent des conditions de vie qui peuvent être très difficiles, ou même le déploiement d'activités qui impliquent des relations sociales où la domination n'est pas absente. Et dans ce sens-là, ça me paraît compliqué de parler de résistance heureuse. Alors ça soulève la deuxième dimension, la question, et puis voilà, je terminerai là-dessus, sur la qualité politique, hein, d'emblée politique de ces résistances ordinaires. En fait, vous me posez une question, est-ce que ces pratiques ont un effet sur la redéfinition des conditions et des formes de relations sociales qui sont issues de la production capitaliste, hein? C'est une question qui est, voilà, derrière le politique, il y a ça. Et je voudrais simplement mobiliser les travaux d'une géographe, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'étudiants, donc c'est une référence à mon sens intéressante, d'une géographe américaine qui s'appelle Cindy Katz, qui a travaillé sur les résistances au quotidien des enfants du quartier de Harlem à New York, mais aussi dans un village au Soudan. Et Katz, elle propose une catégorisation des formes de résistance des groupes opprimés selon leur capacité à remettre en cause l'hégémonie capitaliste dans les formes de reproduction sociale. Et elle distingue trois catégories, ce qu'elle appelle les actes de résilience, donc, qui ne sont pas des actes de résistance en soi, dans le sens où elles ne remettent pas en cause fondamentalement les relations de pouvoir existants, mais cette résilience, ce sont des actes qui permettent aux ménages de survivre matériellement et spirituellement, de consolider leurs ressources et d'avoir un peu de dignité. Deuxième catégorie qui me semble intéressante, c'est celle de ce qu'on appelle « reworking », c'est-à-dire le remaniement, hein. À savoir des actes qui, s'ils n'aboutissent pas fortement sur des actions qui remettent en cause le pouvoir hégémonique, impliquent une plus grande conscientisation des principes de domination, hein, qui dictent le quotidien et les relations sociales, et cette plus grande reconnaissance des conditions de vie problématiques va influer sur certaines pratiques, sur certains usages. Enfin, elle parle d'actes de résistance au sens strict, qui consiste à reprendre le contrôle sur les conditions et les temps de travail et sur ses usages dans la sphère de la production et de la reproduction sociale. Et donc là, on est vraiment dans l'opposition directe au pouvoir hégémonique et ça implique une opposition au système clairement conscientisé. Je pense que c'est des choses qu'on retrouve, hein, dans les deux films, surtout dans le film Villa de Salvador. Donc cette catégorisation est intéressante, notamment aussi parce qu'elle permet de discuter une question qui est à mon avis liée à cette question politique, c'est la question de l'intentionnalité, hein, et donc de la conscience de résister à quelque chose. En l'occurrence, dans mes travaux, c'est sur la gentrification, est-ce qu'elle peut véhiculer en termes de relations de pouvoir. C'est vrai que de manière générale, quand on utilise le terme résistance, on considère que la question de son intentionnalité, donc de sa conscience, hein, c'est une évidence, c'est un présupposé. C'est intéressant de faire un petit détour par certains écrits de philosophie sur la résistance, justement, hein, toutes les disciplines ont parlé de résistance, ont écrit sur cette notion-là, et ces travaux montrent au contraire que l'intentionnalité de résister à quelque chose ne va pas toujours de soi, car résister est un fait logique, c'est une loi de l'être immanente à un sujet. Donc ce qui m'intéresse ici, cette idée que, en fait, de manière consciente, un habitant peut ressentir directement une injustice, hein, associée à une perturbation, ça peut être celle générée par la gentrification, et donc orienter volontairement des pratiques rechercher l'affrontement, remettre en cause la norme, qu'elle soit celle de l'aménageur ou qu'elle soit sociale, mais aussi de manière moins consciente, il peut continuer d'affirmer certains choix, cet habitant, certaines pratiques liées à des habitudes, et sans le savoir, cet habitant peut subvertir les normes produites. Dernier élément, du coup, cette problématique, à mon sens, à l'échelle individuelle, peut tout à fait se poser à l'échelle collective. Certaines résistances intentionnelles individuelles peuvent progressivement prendre corps au sein de collectifs revendicatifs plus ou moins formels, dont l'action sera elle aussi profondément intentionnelle. A contrario, et c'est une déclinaison peut-être plus géographique du passage à un état collectif des pratiques individuelles, les effets de la multiplication, de la répétition de certaines pratiques, de certains usages, de certains comportements semblables en un lieu, eux ne sont pas forcément, cette répétition et cette multiplication ne sont pas forcément calculés, rationalisés. Et donc, pour le dire autrement, les effets tangibles, par exemple de continuité populaire, sur certaines dynamiques comme celle de la gentrification, ne sont au fond que rarement intentionnels. Donc, de mon point de vue, le critère de l'intentionnalité ne me semble pas être suffisant pour évoquer la dimension politique de ces pratiques ordinaires. Certaines pratiques sont politiques sans le savoir ou sans s'en réclamer explicitement. En revanche, certaines pratiques sont peut-être plus politiques que d'autres, en particulier quand elles s'articulent à un collectif organisé ou non. Donc, à mon sens, c'est important de mettre la focale sur le passage de l'état individuel à l'état collectif de ces pratiques. Et c'est vrai qu'en apportant un regard sur les logiques d'appropriation, de marquage sociaux des lieux, le géographe peut, me semble-t-il, apporter une contribution utile et originale à tout ça.